Voilà, bienvenue à tous pour cette première conférence de la troisième saison de Bruxelles Sceptique au Pub. On commence à se faire vieux déjà.
Oui, ça commence bien.
Et nous avons le plaisir évidemment pour débuter cette année en force d'avoir Tim Trachet, qui est un journaliste et qui est surtout, c'est de là que je le connais depuis belle lurette, un membre fondateur du SCEP. Alors le SCEP en fait c'est donc l'organisme sceptique néerlandophone, parce qu'évidemment il y a un organisme sceptique néerlandophone, et il est aussi très actif au niveau de, je vais massacrer l'acronyme, mais l'EXO, c'est l'EXO, hein, oui. European Council of Secular Organization. Donc c'est l'organisation des le conseil des organisations européennes sceptiques. Donc ça regroupe toutes les organisations sceptiques en Europe et qui organise tous les deux ans un congrès européen quelque part en Europe. Et donc voilà, il a été très actif dans le mouvement sceptique depuis très longtemps, évidemment, même avant moi. Et voilà, alors évidemment, pour moi, c'est quelqu'un de très connu en tant que sceptique en Belgique. Hein. Je sais que du côté francophone, il n'est pas encore connu. Alors, je l'ai invité pour ça, pour un peu qu'on brise la barrière linguistique et faire connaître Tim de l'autre côté, du côté des francophones, surtout qu'il parle très bien français, comme vous allez le voir. Et donc, il va nous parler de l'étoile de Bethléem. Je te cède la parole.
Bonsoir. Est-ce que je peux rester assis ou... Voilà. Très bien. Donc je commence avec les projections. Ceci pour simplement pour illustrer. Je n'aime pas les présentations PowerPoint. Il faut quand même donner quelque chose. Voilà. Déjà. En fait, tout le monde évidemment connaît l'étoile de Bethléem, l'histoire de l'étoile de Bethléem. Même dans ma famille, il y avait des chansons. Je sais du côté. Je ne sais pas si le côté francophone on sait ça, mais il y a des petits des enfants qui marchent dans la rue pour demander un peu de l'argent, en chantant une chanson, quelque chose sur l'étoile de Bethléem. Enfin bon, je connais tout ça. Ce n'est pas spécifiquement ça qui m'intéresse, mais je suis astronome. C'est quand même important à dire. Et en fait, mon intérêt pour ce que je connais sceptique, c'est surtout arrivé par l'astrologie, beaucoup, puisque... J'ai même écrit un livre sur l'astrologie, il y a déjà presque 20 ans. Enfin, pas tout seul. Enfin, en tout cas, j'étais dans une revue, la rédaction d'une revue populaire astronomique, et il y a plus de 20 ans, quand un jour j'ai reçu une information du planétarium d'Amsterdam disant qu'ils allaient faire une projection spéciale pour l'étoile de Noël, dans lesquelles ils ont expliqué les hypothèses scientifiques concernant l'étoile de Bethléem. Et j'étais déjà un sceptique très actif, et quand je voyais ça, je me posais tout de suite, bing, bing, il y avait quelque chose comme James Randi, j'ai aussi ça dans ma tête, ça sonnait un peu, j'ai envoyé, c'était encore par lettre, à cette époque-là, quelques remarques là-dessus. Et comme compensation, le type m'a envoyé toute une documentation, surtout des photocopies d'une revue des sociétés des planétariums des États-Unis. Sur ce, où il y avait une véritable discussion. Il faut dire que, sur ce sujet, il faut dire que les planétariums publics, Steve Zeiss, vous connaissez ça, ça a été inventé en Allemagne, mais bon, ça a eu succès à partir des années 1920. Alors, à certains moments, on a introduit, je crois que c'était à Chicago, pour la première fois à fin de l'année, époque de Noël, quelque chose, présentation sur l'étoile de Bethléem. Et ça s'est répandu aux États-Unis et dans le monde entier, chez les planétariums. Et je ne sais pas si le planétarium de Bruxelles le fait. Mais en tout cas, il y a quand même une controverse. La première, évidemment, que c'était un sujet religieux, chrétien même, et ceci dans un planétarium, la plupart qui sont quand même aux États-Unis, qui sont des institutions publiques. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas de problème de séparation de l'Église d'État? Est-ce qu'il n'y avait pas un problème qu'il fallait pas discriminer les autres religions? Enfin, certains commençaient tout de suite à donner aussi des projections, je ne sais pas, sur l'astronomie dans l'islam, enfin, quelque chose comme ça. Autre question, c'était, on parlait d'astrologie, parce qu'il y a une signification astrologique, là, dont je vous dirai. Là, ça se posait c'était déjà, c'est aussi contre celle. Mais puis, il y avait les hypothèses elles-mêmes qui étaient présentées, est-ce que c'était valable ou non. Enfin, bon, ça a continué. Moi, je-même, j'étudie un peu le phénomène. Et il faut dire que même, je me suis entendu que le mois prochain, il y aura un colloque très sérieux entre historiens, archéologues, et tout ce que, astronomes, à Groningen, aux Pays-Bas, à ce sujet. Pour dire, et certains des gens, des savants que, dont je parlerai ici seront présents. J'espère y être aussi. L'étoile de Bethléem, donc. Enfin, tout le monde connaît l'histoire et tout le monde. Enfin, oui, mais quoi? Qui connaît le texte? D'où vient ce récit de l'étoile de Bethléem? Ça vient de. C'est un passage assez bref de la Bible, c'est-à-dire l'évangile selon Matthieu, tout le début. Deuxième chapitre, et je vous invite quand même à bien lire ce qu'il y a mentionné. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, aussi les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui, et lui assemblée, tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, pour certaines traductions, pour les savants, etc., et forma auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils dirent à Bethléem en Judée, car voici qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira le chef qui perpétrera Israël, mon peuple. » Bon, Cette histoire commence. Alors Hérode fit appeler leurs secrets les mages et s'enquit soigneusement après d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis ils envoyaient à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent, ils l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, puis ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement affertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. De suite, vous connaissez peut-être encore, c'est donc... C'est qu'Hérode qui attend le retour des mages ne les voit pas et celui qui s'est trompé et on va tout un enfin, ces soldats à Bethléem pour massacrer tous les petits enfants qui ont moins de 2 ans. Et, mais par un rêve, par un ange, je ne sais pas, Joseph a été averti et il s'enfuit de faire les chiffres. Bien, ceci est donc le seul. La seule source concernant l'étoile de Bethléem. Il y a plusieurs remarques à faire sur ce texte, mais je vais d'abord poser la question, qui étaient les mages? Alors, dans le texte original, en grec, on dit magoi, en latin ça devient magi, mage, donc, et ça devient d'un mot perse, magou, et qui veut dire, ça veut dire prêtre ou sage, ou éventuellement même devin, dans ce genre-là. On y désignait généralement, par magos, on pouvait désigner des devins ou des astrologues. Il faut bien savoir qu'à cette époque-là, l'astrologie était déjà en plein, très développée, et l'astrologie, comme on connaît, est née en Mésopotamie. Elle s'est développée pendant des siècles. Le système actuel que nous connaissons a été développé relativement tard, il ne faut pas dire, disons, l'époque d'Alexandre le Grand. Et il est vrai que les des astrologues mésopotamiens ou persans étaient promenés dans l'Empire romain pour comme devins. Il s'est connu comme ça. Donc c'est pas si étonnant donc, de s'imaginer que les mages, dont on parle ici, venaient de cette région-là et qui étaient généralement donc, aussi et que l'étoile était interprétée par eux d'une quelque façon astrologique, comme une prévision. Donc, voilà. Et alors une petite, donc on peut assurer, dire que la marche pourrait être des rois. Remarque, on ne parle pas de roi dans ce texte. On dit pas de roi mage, on dit, il y a un passage dans le texte où on dit que le Messie, quand il serait, sera né dans l'Ancien Testament, où les, enfin même pas quand il serait, que des rois viendront leur adorer. Donc on parlait peut-être on parle de mage. Le nombre n'est pas mentionné non plus. On parle généralement de trois, mais c'est probablement dû au cadeau, pardon, qu'ils apportent. Donc le l'or, la myrrhe, l'encens et la myrrhe. On n'en sait pas plus que ça. On a déjà remarqué, bien que si vous allez aujourd'hui dans la cathédrale de Cologne, vous trouvez là les reliques des rois mages. Bon, on les a trouvées quelque part en Constantinople avec les croisades. Enfin, bon, tout ça. Donc évidemment, personne ne sait exactement qui étaient les mages, ils ont disparu. Et il ne faut pas évidemment aller plus loin là-dedans. Avant que je parle des différentes hypothèses, je dois quand même faire. Je fais généralement quelques remarques sur ce qu'on lit dans le texte et ce qu'on ne lit pas dans le texte. D'abord, comme ici, bon. L'étoile, ici, dont on parle, est la traduction du mot grec aster. Non, ce qui veut dire astre. Hein, donc. En français, donc astre, il signifie un corps céleste en général, pas nécessairement une étoile dans le sens strict du mot. Deuxièmement, seuls les mages semblent avoir remarqué l'étoile, ce qui fait penser qu'il s'agissait d'un phénomène peu spectaculaire qui laissait le commun des mortels indifférents. Troisièmement, le mot Orient apparaît deux fois dans le texte. Dans différents sens dans le texte, je veux dire, parce que chez les mages d'Orient, il s'agit de la traduction du mot grec Anatolia, Orient en fait en pluriel, c'est-à-dire les régions de l'Orient. Mais quand ils disent, je dirais quand même au début, vu de l'Orient, qu'ils ont vu de l'Orient, l'étoile, en Orient, pardon, ils ont vu son étoile en Orient, c'est-à-dire, ça veut donc dire que les mages ont vu l'étoile, ici Orient est en singulier, Anatolé, ce qui veut dire que, et ça veut dire vraiment la position, l'Orient dans le ciel ou à l'horizon, ce qui veut dire, quand vu de l'Orient, veut donc dire que les mages ont vu l'étoile quand elle se levait à l'horizon et non nécessairement quand les mages se trouvaient dans le pays où ils étaient d'originaire. Voilà. Puis, deuxième, si vous le voyez bien, l'étoile semble avoir être apparue deux fois. Une fois en Orient et une autre fois sur la route, en route sur Bethléem. Ça, c'est clair. Voilà, il retrouve cette étoile. L'intervalle de temps qui sépare les deux apparitions n'est pas précisé. Si les mages se trouvaient en Mésopotamie au moment de leur première observation, ils ont dû faire un voyage de plusieurs semaines ou plusieurs mois, peut-être avant des temps d'atteindre Jérusalem et Bethléem. Alors, il est évidemment difficile de comprendre comment une étoile ou un astre marchait devant eux jusqu'à s'arrêter au-dessus du lieu qui était le petit enfant et s'arrêta. Les étoiles ne se placent dans le ciel du lever de l'est et du coucher à l'ouest. Or, Bethléem se trouve au sud de Jérusalem. On pourrait imaginer que l'étoile se trouvait au sud, vers le point culminant, c'est-à-dire pendant le voyage qu'ils font sur le ciel, puisque la distance de Jérusalem à Bethléem est de moins de 10 km, il ne faut pas dire. Quant à la position au-dessus du lieu, elle a été identifiée avec le zénith, le point de la sphère céleste qui se trouve juste au-dessus de l'observatoire. L'étoile se serait donc située à zénith au moment de l'arrivée d'Enmarche. C'est-à-dire qu'en fait, de quelques... avant de parler des hypothèses différentes, il faut d'abord quand cela aurait pu avoir lieu. Donc, on dit début de l'ère chrétienne. Ben non, l'ère chrétienne, c'est, en fait, a été inventée au VIe siècle par un moine en Rome, un certain Denis le Petit, qui avait en fait fait une chronologie, des calculs calendriers. À certains moments, dit, je vais compter les dates, les années à partir de la naissance du Christ et la, commencer par un an dont on ne sait pas, même pas très bien comment, pourquoi il a trouvé cet an-là, parce que même les pères de l'Église de l'époque avaient déjà donné d'autres dates, d'autres années, donc on ne sait pas très bien pourquoi. Mais enfin, ça a été accepté par tout le monde après des siècles. Très bizarre, c'est que personne ne l'a imposé, personne n'a dit que c'est la juste date, c'est une habitude qui a été introduite, comme l'année du Seigneur. Remarque d'ailleurs que, par exemple, si vous, en Éthiopie, les chrétiens d'Éthiopie utilisent toujours encore une autre année. Donc, il y en avait plusieurs. D'ailleurs, à l'époque, ils ne commençaient pas toujours avec l'essence, soi-disant, du Christ. En tout cas, on sait une chose, c'est que si ces évangiles sont justes, et ça même l'évangile de Luc prouve ça, Jésus serait né au moment que, sous le règne d'Hérode. Or, on sait qu'Hérode est né dans l'année moins 4, 3 avant est mort probablement dans l'année 3 avant Jésus-Christ, moins 4, si je. Non, 5 avant moins 4. Ah oui, on utilise toujours des moins 4. Il faut faire une différence entre l'année moins 4 et l'année 4 avant Jésus-Christ. Hein, parce que l'année 4 avant Jésus-Christ. L'année A, avec l'année A, notre R, est précédée par la. L'an 1 avant Jésus-Christ, il n'y a pas de zéro. Les astronomes aiment faire les calculs précis, alors qu'ils disent leur aller 0, puis là, moins 1. Donc, l'an moins 1, c'est 2 avant Jésus-Christ. Et donc, j'utilise toujours ce calcul-là, qui est ce qu'on appelle la calcul, façon de compter ça. Donc, on sait qu'il est mort. Hérode est probablement moins dans l'an moins 4. Alors, généralement, on accepte donc que Jésus serait déjà né quelques années avant l'année 1 de notre ère. Alors, bien que ça pose des questions, je ne vais pas entrer en détail parce que l'évangile de Luc, on parle du célèbre recensement qui avait lieu pour se rendre à Bethléem. Or, il y a eu un recensement dessus, mais c'était plus tard, je crois que c'était l'an 4 ou l'an 9, quand. La Judée fut annexée à l'Empire romain. Donc, et ça cloche quelque part. On parlera ça peut-être plus tard. Mais bon, on sait rien sur cette année, sauf que si c'est vraiment qu'il est né sous Hérode, ça devait être quelques années avant. On ne sait pas, évidemment, la date n'est connue, le 25 décembre. C'est une célébration qui date de plusieurs, prendre 25 décembre, ça vient évidemment du solstice d'hiver. On a longtemps dit d'ailleurs que c'était pour imiter le culte du Sol Invictus des Romains. Mais on doute quand même, on sait que peut-être les chrétiens simplement adoraient utiliser cette date pour comparer la naissance du Christ avec le retour de la lumière. Enfin, on n'en sait rien. Je parle maintenant des différentes hypothèses qui ont été formulées par des savants plus ou moins sérieux, certains très sérieux. Bon, commençons par la hypothèse d'une supernova qui a eu vraiment une nouvelle étoile. Dans le sens que, de temps en temps, il arrive quand les astronomes observent une étoile qui apparaît là. C'est un phénomène, une vraie supernova est une véritable explosion d'une étoile. C'est un phénomène extrêmement rare qu'on va. Je ne vais pas entrer dans les détails. Heureusement que c'est rare, parce que s'il y avait une étoile qui explosait dans nos environs, ça devait être très gênant pour nous. On en a vu seulement quelques dans notre galaxie. La plupart ont été observés dans d'autres galaxies, donc à des millions et millions d'années-lumière de nous. Mais si ça explose dans notre galaxie, ça pourrait devenir très brillant, très remarqué. Il y a aussi le phénomène plus moins spectaculaire des novas. Novae, en même tout court, ce sont des étoiles qui s'éclairissent pour des réactions nucléaires aussi, mais qui n'explosent pas vraiment. Et ça, c'est moins spectaculaire. Moi, j'ai eu l'honneur, le plaisir d'en observer une en 1975, on le signe. Enfin, ça reste toujours spectaculaire, c'est moins visible. Mais ce qui est intéressant, regarde ici une nova dans une galaxie en 2011. On voit des. Que ça apparaît là, il y en a même deux. Donc on voit vraiment des distances de plusieurs millions de kilomètres d'années-lumière, dizaines de millions même, et c'est assez remarquable. Mais ce qui est intéressant, une des premières grandes observations d'une supernova était dans l'année 1578, et ça a été observé par le célèbre astronome danois Tycho Brahe. Et en 1604, une autre on a observé par le célèbre, encore plus célèbre astronome Johannes Kepler, d'ailleurs plutôt moins le disciple de Tycho Brahe, et je crois dans l'Opiucus. Et c'est déjà remarquable que Tycho Brahe comparait ce phénomène-là, qui était miraculeux, parce que d'ailleurs c'était extrêmement brillant, et puis c'était pas en concordance avec les théories d'Aristote, en fait, tout ce qu'on pensait de ce qui était le ciel, qui était immuable. Alors Tycho Brahe a déjà tout de suite pensé à l'étoile de Bethléem, et Kepler a posé sérieusement la question si l'étoile de Bethléem fut un phénomène comme ça. Ça, c'est une. Alors, on ne sait rien de l'éclat de l'étoile. Mais il y a certains textes qui semblent suggérer que ça pourrait être bien un supernova. Il y a le protévangile de Saint Jacques qui parle aussi de la naissance. Et qui décrit aussi le voyage des mages, mais qui donne pratiquement la même chose, que certainement copié de Matthieu, mais il y a quelque chose de plus en disant. Ils disent Hérode, son étoile s'est levée brillante. Elle a été tellement surpassée en clarté des autres étoiles du ciel que l'on ne les voyait plus. Et nous avons ainsi connu qu'un grand roi était né en Israël et ils sont venus l'adorer. Excuse-moi, c'est des petits problèmes. Ça pourrait donner une impression que ce serait quelque chose de sérieux. Mais il faut attention, ce protévangile de Saint-Jacques, c'est un texte qui date du deuxième siècle de notre ère. C'est ce qu'on appelle un évangile apocryphe. Ce sont des évangiles rédigés plus tard qui sont un peu complémentaires aux quatre évangiles canoniques et qui sont. Et comme je vous le dis, la plupart est copée des autres récits de la nativité de Jésus. Il en a ajouté donc. Deuxièmement, évidemment, si on avait. Le phénomène, c'est un phénomène très remarquable. Si ça aurait été, en fait, c'est possible même qu'elle vienne visible en plein jour quand elle est assez brillante. Mais ça n'a pas été remarqué par d'autres astronomes. Alors, il y avait des astronomes à cette époque-là, évidemment, à Alexandrie, c'était l'Empire romain, donc il n'y en avait pas, on n'en sait rien. Donc, c'est très improbable que ça ait été tellement spectaculaire. Je vous ai dit que seulement les mages semblent avoir observé ça. Autre problème, l'étoile est apparue deux fois, comme je dis. Alors, une supernova ne se comporte pas ainsi, sauf évidemment s'il y avait des nuages qui les cachaient. Mais bon, ne parlons pas de ça. Peut-être que c'était donc une nova ordinaire. Alors, ça serait plus intéressant parce que les chroniques chinoises on mentionne dans la moins 4 pendant le deuxième mois du calendrier chinois un objet qui resta visible pendant 70 jours. Alors, on accepte généralement que c'était bien une nova. Il s'agit de la terminologie, d'interpréter la terminologie parce que la nomenclature des astronomes chinois n'était pas tout à fait uniforme. Ça pourrait être autre chose, je reviendrai. Mais c'est considéré comme une hypothèse probable. Mais c'est pas plus que. Mais ça n'explique non plus pourquoi il a réapparu. Ça, je vous dis tout de suite. Une nova peut réapparaître après plusieurs dizaines d'années ou des siècles, mais pas après quelques semaines ou quelques mois. Alors, une autre hypothèse, c'est la plus connue peut-être, c'est une comète. Alors, une des adhérents de cette hypothèse, c'est le célèbre peintre Giotto, dans des fresques qu'on peut voir dans une chapelle à Padoue. On voit ici vraiment l'adoration des mages et on voit une comète. Bon, c'était assez populaire. Pourquoi? Parce que déjà en l'Antiquité, on interprétait déjà des comètes comme tout le monde sait ce que c'est une comète, quand même, comme des objets qui annonçaient des événements importants. Alors, Origène, c'était un premier grand apologiste chrétien, a déjà dit que interpréter l'étoile Bethléem comme une comète, en remarquant que, suivant certaines chroniques, il y a une comète qui aurait annoncé la naissance du roi Mithridate, qui fut un roi du Pont, qui c'est un ennemi important de Rome à un certain moment. Donc c'était connu, donc c'était accepté comme ça. Et vous-même récemment, on a encore annoncé la naissance de cet homme extraordinaire. J'ai trouvé ça, donc vous savez, il faisait des miracles ce type-là, et son père aussi. Alors, il y a un astronome, un savant, un scientifique anglais, un certain Humphreys, qui défend aujourd'hui beaucoup l'hypothèse comète. L'objet de moins 4 dont on nous a parlé, mentionné dans les chroniques, pourrait être une comète. Et il y a plus, les comètes peuvent réapparaître. Si les comètes approchent, font une orbite très excentrique autour du Soleil, et généralement, on les voit bien avec leur queue donc qui s'agrandit, s'y approche le Soleil. Elles disparaissent parce qu'elles sont trop proches du Soleil, donc elles ne sont pas visibles pendant la journée, évidemment, mais elles peuvent réapparaître à l'autre bout, par exemple, si on voit les approcher au moment du soir, peuvent réapparaître le matin. Ça dépend un peu de la position de l'orbite, évidemment. Donc, il est bien possible que la comète peut être observée deux fois. Autre chose, ce que Fries indique aussi, c'est que le comète pourrait avoir la queue pourrait avoir montré la direction vers Bethléem et guider comme ça les mages. Comme je dis ici. Problème. Une comète brillante se remarque vite et il semble que donc, personne n'a vu ça à Jérusalem. Et puis les comètes sont considérées comme des signes néfastes généralement, pas toujours. Le détail, le philosophe qui a interprété la naissance de Mithridate, sa tête, c'était un éducateur de Néron. Alors, c'était un peu plus flatté. On dit que quand Néron est né, il y avait aussi une comète. On ne sait pas très bien, mais généralement, on avait peur des comètes et ce n'était pas un bon signe. Donc, c'est pas la propre. Comment pour te dire ça? Alors, une autre hypothèse, c'est que ce serait une bolide. Qu'est-ce que c'est un bolide? C'est en fait un météore très brillant. Et vous savez, bon, il y a eu un phénomène récemment en Russie. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Ça peut devenir plus brillante que bon, comme la pleine lune. Donc, si les mages étaient en bon endroit, ils ont pu voir du bolide ou du météore brillant. Seulement, ils ont eu beaucoup de chance. C'était vraiment un signe divin de le voir deux fois. Bon, c'était. C'est un véritable bolide. Donc, on ne sait pas en dire plus. C'est assez. Bon, parce que les mages, ils ont dû voir du bolide, alors je ne sais pas, il faut voir, dire ça. Et une autre série d'hypothèses est celui qu'il s'agissait de conjonctions de planètes. Et c'est justement ça qui est populaire dans les planétariums. Pourquoi ? Parce qu'on peut. Parce que dans les planétariums, on peut projeter donc simuler les orbites, le déplacement des planètes au ciel. Et donc on peut montrer comment étaient les positions des planètes il y a un certain moment dans le passé. Donc il est facile de faire des calculs et de donner la position des planètes au début de notre ère. Donc et ce qui est important, c'est que les conjonctions, donc c'est-à-dire peut-être que deux planètes s'approchent très sont à une signification importante en astrologie. Puis ça renforce comme les planètes sont véritablement les aiguilles des horoscopes, ça renforce le pouvoir des planètes que s'ils sont en conjonction. Et quand elles sont en opposition, ça une force contraire. Alors, il y a un plus, on a commencé à calculer, ça, les astronomes savent faire ça déjà il y a 2000 ans, à calculer des positions. Voilà, ici, vous voyez par exemple une conjonction Jupiter et Saturne dans le taureau. Alors, on a par exemple trouvé ça. Le 30 septembre et le 5 décembre, et j'ai oublié évidemment l'année, c'était moins. Le triple conjonction, l'an moins 6, ou 7 avant Jésus-Christ donc. Et voilà, les deux planètes se sont rapprochées de moins d'un degré à certains moments. Et c'est déjà Kepler qui était. Dont on a marié, qui au XVIIe siècle, qui était astronome et aussi astrologue, qui a cette informé. Un certain Hughes, un astronome anglais très sérieux, a publié cette hypothèse dans un article dans Nature, mais c'est aussi soutenu par un certain Percy Seymour, qui un anglais d'origine sud-africaine, qui est bizarre parce que lui, il croit en astrologie. Alors, les données nées de Jésus seraient nées le 15 septembre suivi quand les deux planètes se levaient simultanément et le soleil était dans la Vierge. C'est la première observation. Puis, le 30 septembre et le 5 décembre, c'était les trois conjonctions observées donc par les mages. Voilà. Le soleil était dans la Vierge. Il a encore remarqué que le fait que ça, tout cela passé dans le poisson, c'est quand même extraordinaire, puisque le poisson, c'est quand même le symbole du christianisme. Or, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de chrétiens, je ne comprends pas. Enfin, il faut être astrologue pour comprendre ça. Mais il y a d'autres alternatives. Certains préfèrent un conjonction. Jupiter et Saturne sont des planètes importantes, mais Vénus et Jupiter sont vraiment les deux étoiles les deux planètes les plus brillantes. Alors, il y a eu deux conjonctions, le 12 du mois 2, les planètes s'approchent jusqu'à 12 degrés, 12 minutes d'arc, et certainement à 3 minutes tard. Quand je crois que c'est un demi-minute tard, je crois que c'est... Je sais pas, donc, en tout cas, ils étaient... c'est pas tôt, c'était certainement moins d'un demi-arc. Or, un degré d'arc, un minute d'arc, donc c'est une 60e de degré, c'est le pouvoir séparateur de l'œil. Planètes s'approchent plus et sont visibles comme une seule étoile. Alors ça devait être très spectaculaire, elles étaient visibles comme une seule seconde. En plus, elles se couchaient en Mésopotamie, cette étoile donc, se couchait, et ceci près de Régulus. Régulus est l'étoile la plus importante à la constellation du Lion. Et Régulus veut aussi dire petit roi. C'est Lion aussi signe de royauté. Donc tout cela, il y a beaucoup de symbolisme astrologique là-dedans. Je parlerai pas de toutes les hypothèses, mais ce sont les plus importantes. Et on parlera certainement de ça dans des séances au planétarium. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pensé? C'est une hypothèse, par exemple, surtout le planétarium. Le problème, c'est que évidemment, les conjonctions tombent un peu tard. Non, moins deux, etc. Enfin, les conjonctions ne sont pas une étoile, ce qui est important. Hein? Excuse-moi pour cette faute, erreur d'orthographe, mais j'ai fait ça dire tout dernièrement, il y avait un problème. Et comment expliquer l'étoile au-dessus de la maison de Jésus? C'est pas ça qu'on s'imagine quand on s'y pense au voyage des mages, on ne voit pas des conjonctions. Donc c'est une interprétation, oui, c'est très joli de penser à ça, mais c'est une interprétation commune. Alors il y a une hypothèse plus récente, qui est très sophistiqué, qu'il s'agissait d'un horoscope royal. Peut-être les mages n'ont rien vu, mais ils ont calculé certaines positions et qui n'étaient même pas visibles, dans le sens qu'il y avait tout pouvait être caché par le soleil en plein jour. Ils ont trouvé des configurations astrologiques significantes au ciel, indiquant la naissance d'un roi. Ça ne devait pas donc être visible, mais non calculé. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on sait qu'à cette époque, à l'Antiquité, on s'intéresse qu'aux horoscopes royaux. C'est-à-dire avec des gens, il y a des gens qui naissaient avec des indications qui pouvaient faire qu'ils étaient destinés pour devenir roi. Et ça, on se méfiait tellement que les empereurs romains, entre autres, ou d'autres souverains, allaient chercher les gens qui étaient nés comme ça pour les faire tuer. Donc, vous voyez maintenant Hérode qui veut tuer Jésus parce qu'il pourrait menacer. Donc, ça pourrait bien être une inspiration de ce signe-là. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce que Monard a calculé, en 6 avant Christ, il y avait donc... une conjonction, une occultation même, donc la Lune occultait, je crois, c'était pas Régulus, Jupiter, oui. Il donne plusieurs interprétations là, le 19 décembre, ce sont les deux dates plus importantes et qui pourraient considérer avec deux moments et qui peut interpréter, donc le 20 mars, donc oui. Jupiter et la Lune étaient très proches du Soleil à certains moments. Donc ça peut être la Lune, Jupiter, hein, c'est le roi de Jupiter, le roi des dieux, symbole de la royauté, et tout ça, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est assez sophistiqué, ce monsieur Monard, donc toujours encore respecté. On peut toujours remarquer, encore une fois, c'est pas ce qui est mentionné dans le texte, quand on voit vraiment une étoile et qui les guide vers Jérusalem. C'est assez. C'est quand même. Difficile. Mmh. Voilà. Et on ne sait pas comment elle peut interpréter ça, que ça restait au-dessus de la maison du petit, où était le petit enfant. Vous voyez, tout le monde prend un peu les ingrédients qu'on veut pour une hypothèse et oublie les autres, ou ignore les autres plutôt. Même on indique que c'est pour être Vénus, qui est une simple patente, qui peut devenir très brillante. Certaines positions de Vénus ont été équées. Je ne parle pas de ce qu'on appelle le lever héliac. Ce qui est le plus ridicule de tous, c'est que ce serait été la planète Uranus. Or, Uranus était une planète inconnue à l'époque, puisque ça a été découvert en 1784. Personne ne connaissait Uranus, mais de temps en temps, elle est assez brillante. Et ça, c'est ça ne fait vraiment pas rien dire. Pour être observé à l'œil nu, si on sait vraiment si c'est ça. Or, certains ont prétendu ça, qu'ils étaient tout proche d'une autre planète qu'on aurait pu. Je ne comprends pas très bien. Je veux pas d'autres. Alors, les hypothèses astronomiques, il existe aussi des hypothèses non astronomiques. Par exemple, c'est ce qu'il y a un engin extraterrestre. Alors, pour ça, je vous conseille de contacter les gens de Raël, les Raéliens, qui dit qu'ils savent bien que Marie est devenue enceinte avec des grâces aux extraterrestres. Enfin, c'est ça, donc ça correspond tout à fait. Évidemment, il y a encore d'autres choses. On peut penser à un phénomène surnaturel. Certains disent que c'était peut-être un ange ou simplement un miracle. Qui dire avec ça, on n'est plus dans la science, évidemment. Mais ce qui est important, ne doit-on pas accepter que l'auteur de l'évangile a au moins voulu décrire un phénomène surnaturel? Les évangiles sont pleins de miracles. Alors pourquoi on doit, avec ça, chercher une hypothèse scientifique? Ça, c'est un peu mon problème. Il risque évidemment le fait que s'agit d'une légende, un mythe, récit fictif. Alors, et certains, oui, mais c'est une hypothèse comme une autre, disent certains. On ne peut pas préférer sur l'autre. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas une hypothèse. Avant de former une hypothèse, il faut quand même savoir qu'il s'agit d'un phénomène réel. C'est un peu comme si, s'il y a quelqu'un qui est assassiné. Si quelqu'un disparaît en prévenant la police ne trouve pas la personne disparue, mais trouve une ou deux personnes qui sont suspectes dans les environs et qui auraient peut-être pu l'assassiner. Alors, quelles sont les hypothèses? Là, la personne a été assassinée par A, ou il a été assassiné par B, ou il n'a pas été assassiné. Est-ce que les deux personnes peuvent donc être accusées de crime ou assassinat? Ben non, il faut d'abord prouver que le type a bien été assassiné. Nihil poena sine crimine, pas de peine sans crime. Donc, ici, on n'a pas prouvé qu'il s'agit d'un phénomène réel, et on a quand même des doutes en ce qui concerne l'origine de ce texte. Alors, il faut quitter l'astronomie et entrer dans ce qu'on appelle la critique historique, et c'est bien, et poser des questions comme: les sources sont-elles fiables? Ça, c'est une question des historiens. Enfin. Et sont-elles confirmées par d'autres sources? Ça, c'est un problème. L'auteur est-il témoin des faits qu'il a écrits, avec quelle intention a-t-il écrit ces faits? Et tout cela, là, on quitte l'astronomie, on doit entrer dans le domaine de l'exégèse, de la critique de la Bible, l'histoire des évangiles, l'interprétation de ce texte. Bon, c'est toute une discipline différente, et ça, c'est devenu très sérieux. Et bon, ce qu'on sait maintenant, tout ce qu'on connaît de Jésus, pratiquement tout ce qu'on connaît, ça devient de ces textes qu'on appelle le Nouveau Testament. Les sources non chrétiennes qu'on appelle sources profanes qui parlent ça, et ça tout de, au moins du deuxième siècle, ils sont très vagues, ne disent rien à personne. Et il y a Flavius Joseph, l'historien juif, qui mentionne deux fois Jésus dans son œuvre, mais on croit qu'au moins une fois, il s'agit d'une ce qu'on appelle une extrapolation, que des copistes ont introduit. Pour cela, il ne faut pas oublier que tout ce qu'on connaît, tous les textes qu'on connaît de l'Antiquité, jusque Virgile, Horace, ou Cicéron, ont été copiés. Et donc, généralement, beaucoup d'exemplaires, la plupart des textes qu'on a, les plus anciens ont été écrits 5-6 siècles après. Donc c'est très difficile de savoir quels étaient les textes originaux, même des grands acteurs classiques. Il y a toute une discipline pour vérifier ça. Mais donc, on sait que le Nouveau Testament, la plus ancienne partie du Nouveau Testament, est-ce que quelqu'un, qu'est-ce que c'est ? Le plus ancien texte qui mentionne Jésus.
Les épîtres de Paul.
Quoi. Ouais, les épîtres de Paul, qui sont écrits par quelqu'un qui n'a jamais connu Jésus pour son vivant, qui a vécu 30 ans après lui, si la datation de mort de Jésus est correcte. Donc quelqu'un qui ne s'intéressait même pas à sa vie, parce qu'il parle de bon Jésus, bon, le sauveur, etc. Les évangiles apparaissent plus tard. Et les évangiles, donc, comme nous connaissons, ont été rédigés au moins au début de l'année 70, notre ère. Donc si on dit toujours que Jésus est mort vers l'an 30, il y a 40 ans qui les séparent. Enfin, je ne vais pas faire écrire parler de pas tous, je ne suis pas un grand expert, mais tout ce qu'on est sûr, tous les savants sérieux, même chrétiens ou non, sont d'accord. Les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins populaires. D'ailleurs, même selon la tradition coréenne, au moins deux évangélistes, c'est-à-dire Marc et Luc, n'ont jamais connu Jésus. Bon, donc, ils ont écrit ça après. Les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins, donc, et ce ne sont pas des documents historiques, ils veulent pas l'être, ils veulent témoigner de Jésus, de ce qu'il a dit, mais pas de fait de sa vie. Ils sont d'origine beaucoup plus tard. On sait ça parce qu'il y a quand même des indications que ça a été écrit pendant ou après la guerre des Juifs, la chute de Jérusalem et tout ça. Et en fait, dans tout cela, il n'y a qu'un seul de quatre qui parle de l'étoile de Bethléem, c'est Matthieu. Et il n'y a que deux qui parlent de la naissance de Jésus, ce qu'on appelle la nativité. Le premier, il s'agit de Matthieu et Luc. Or, Luc, il parle de toute autre chose, il ne parle pas de l'étoile de Jésus, il parle du recensement et du voyage vers Bethléem, etc. Et les bergers. Et d'autres choses, il y a beaucoup de choses. Ce qui est très important comme différence, c'est que chez Matthieu, on voit bien que on a vu que Jésus était dans une maison, alors chez Luc, et qu'il est né à Bethléem. Ils s'en vont vers l'Égypte, ils n'osent plus retourner à Bethléem, où ils vivaient avant, ça semble implicitement, mais ils vont s'installer plus au nord, en Galilée, à Nazareth. Tandis que, chez Luc, ils viennent tous les deux de Nazareth, ils vont à Bethléem pour ce recensement, ce qui est bizarre, parce que Marie était enceinte, et pourquoi est-ce qu'elle voyageait après Joseph aurait, ça aurait suffi pour que Joseph y aille. Enfin bon, même si cette histoire est vraie, donc il n'y avait pas de place dans l'hôtel, ils sont couchés dans une crèche, enfin tout. Et puis ils sont allés à Jérusalem. Donc Matthieu ne parle pas de fuite vers l'Égypte, ils sont allés à Jérusalem, puis ils sont retournés à Nazareth. Alors bon, ce Euphrys, bah, le type de la comète, il essaie de faire toute une chronologie à base passer à la comète, et c'est très sérieux, c'est daté, et donc, mais quand même, ça reste quand même très très vague. Et bon, j'ai lu quelques livres excellents écrits par des gens qui sont certainement pas des grands athées, mais qui disent quand même que les récits de l'année visitée ont été rédigés séparément plus tard, que tout ce qu'en fait personne, on peut estimer qu'il y a, si Jésus a existé, qu'il y a des indications dans les évangiles qui montrent une certaine, des faits réels qui en sont passés. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais la nativité qui est 30 ans avant, si on se dit, personne n'a connu, qui a connu Jésus plus tard, l'a connu au moment de sa naissance. D'ailleurs, qui aurait transféré ça, parce que je dois retourner au texte original, on dit bien que Hérode s'entretient en secret avec les mages. Donc, qui aurait pu transférer cette histoire, cet entretien de Jésus, de visiter mages qui ont disparu à jamais quand on ne sert plus rien. Donc, ceci est totalement inventé. Pardon. Ce qui est, on remarque que dans le reste des évangiles, même pas dans Matthieu et Luc, on voit quelque chose, une référence dans ces premiers chapitres qui sont les récits de la nativité. C'est une. Par exemple, que Marie était vierge. Ça c'est pas mentionné plus tard. Alors, pour revenir à l'étoile, comment doit être interprétée l'étoile? Pourquoi parle-t-on d'étoile? Alors, il y a plusieurs. Indication dans la Bible, mais aussi au dehors, que l'étoile était symbole, symboliser le roi. Un des plus connus, c'est que Jésus lui-même, dans l'Apocalypse, j'ai envoyé mon ange, je suis le rejeton de la postérité, l'étoile brillante du matin. Et il y a encore une indication plus importante, c'est dans l'Ancien Testament. Ah, c'est quoi ça? Ah, ça disparaît. Un instant, c'est pour la prophétie de Balaam, vous connaissez son livre des Nombres, c'est très vieux donc dans l'Ancien Testament, mais c'était toujours voilà. Le livre de Nombres, donc le livre de la Torah, l'Ancien Testament, on peut lire. On annonce déjà là, mentionne déjà ce qui pourrait devenir le Messie. Je le vois, mais non pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'abord. Etc. Donc, des signes. Des symboles de la royauté. Et l'étoile et le sceptre, donc, étant interprétés comme symbole de la royauté, donc, ce verset a été interprété notamment par certains manuscrits de la Mer Morte comme la plus ancienne mention du Messie. Les dirigeants du dernier soulèvement des Juifs contre les Romains, donc au IIe siècle déjà, Simon Bechkoshba, ce dirigeant, était plus connu comme Ben Kochba, ou fils de l'étoile. Il fut reconnu comme le Messie par un sage juif, se basant sur cet oracle-là. Alors, c'est donc, n'oublie pas que les évangiles ont été écrits au moment. Des soulèvements des Juifs, il s'agit du deuxième. Au premier, il y avait d'autres indications qui sont même mentionnées dans certains historiens comme Tacite et Flavius Joseph qu'on attendait qu'un roi naîtrait dans Judée à ce moment-là. Or, ils ont tous été présents qu'il s'agit du général romain Vespasien qui commandait les troupes romaines et qui était proclamé empereur. C'est du côté des Romains qu'on disait ça. Mais les Juifs avaient évidemment d'autres interprétations à ça. Et qui sait que celui qui a écrit le récit de l'étoile de Bethléem n'a pas pensé à ça. Enfin, ça c'est sous dite une hypothèse, mais peut-être plus possible. En conclusion, les événements décrits par Mantien n'ont pas eu lieu et l'étoile de Bethléem n'a pas existé. Et aucune théorie scientifique peut être basée sur technique. Notamment, et mon cher collègue astronome l'a fait. Alors, qu'est-ce qui est. Aucun expert sérieux de la Bible défend la valeur historique du Bethléem, aucune hypothèse scientifique. Donc une valeur scientifique. Alors, ce que je dois comparer ceci. Alors, je connais aucun gynécologue et aucun botaniste qui donne des hypothèses scientifiques pour ces deux phénomènes-là. Pour le lotus, ce serait peut-être pas intéressant. Mais je trouve les chrétiens, comme c'est peut-être parce que nous sommes quand même un peu rationalistes, ou parfois un peu trop, dans certaines circonstances. Alors, les théories, ce que j'ai mentionné, sont scientifiquement parlées, pas absurdes, mais elles sont naïves. On cherche une explication scientifique pour quelque chose qui ne nécessite pas d'explication scientifique, puisqu'il s'agit d'une affabulation. La science pure ne suffit donc pas, vous voyez, la pseudo-science. Il faut aussi un sens critique. Et parce que si on veut, avec des outils trop rationnels, commencer à donner des explications d'anciens mythes et tout ça, on arrive dans le cas d'un Erich von Däniken qui expliquait tous les mythes ou les théories de l'histoire des anciennes religions avec des visites des extraterrestres, ou peut-être encore plus intéressant, Velikovsky qui croit que notamment l'Ancien Testament, mais d'autres écrits aussi anciens, des miracles ou des phénomènes qui sont passés, par exemple, je ne sais pas, le fait que la mer rouge s'est ouverte et qu'il y a du manna qui est tombé du ciel, tout cela pourrait être des phénomènes, des catastrophes, des collisions de planètes, enfin une sorte de billard cosmique incroyable qui s'est passé au temps de Moïse. Bon, c'est très improbable scientifiquement, mais ça a été pris au sérieux. C'était en fait une explication, disons, rationnelle, mais comment ? Voilà, voici, je n'ai pas été trop long.
Non, c'est pas.
Ça, voilà. Merci.